France Inter.
Ce dimanche, dans Interception, il est question de silence. Le silence autour de la mort d'une femme, et le silence aussi dans la vie des sourds et malentendants. Mais il est aussi question de faire du bruit autour de ce silence. Avec les sourds, nous irons à un concert, et la jeune femme dont la mort a été passée sous silence, vous allez voir qu'il y a du monde qui fait du bruit pour elle.
Interception, Fabienne Sintès sur France Inter.
Vous ne connaissez pas Blessing Matthew, moi non plus, avant de découvrir son histoire. Et vous ne saurez pas grand-chose d'elle. De tous les gens que vous allez rencontrer dans ce reportage, personne ne l'a connue, personne n'a entendu le son de sa voix, personne n'a même partagé un café avec elle, on ne sait rien. À peine son âge, peut-être 21 ans. Mais on sait qu'elle est morte le 7 mai 2018, noyée dans la Durance, alors qu'elle tentait de passer à pied la frontière entre l'Italie et la France. On sait aussi que c'est le Nigeria qu'elle avait fui, qu'elle a pris un bateau d'abord comme tant d'autres, et puis tenté la route de la montagne. Son corps a été retrouvé à un barrage, tout près du village de la Vachette, c'est à 3 km de Briançon. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle courait. Elle était prise en chasse par la gendarmerie mobile et apparemment, elle est tombée dans la Durance. Dans quelles circonstances? Est-ce que quelqu'un aurait pu la sauver? Est-ce que c'était possible? L'histoire de Blessing, on ne la connaît pas. Mais les circonstances de sa mort interrogent toujours des années après.
Très vite, on sent quelque chose qui ne va pas. La rivière, elle arrache tout. Hein. On n'a jamais vu ici un corps faire 11 km, parce que ce n'est pas la première noyade. Elle aurait été broyée. Mais logiquement, c'est la justice qui devrait faire cette reconstitution.
Lui, c'est Michel. Il fait partie du collectif Tous Migrants. Parce qu'il y a eu une enquête. La course-poursuite, elle est établie. Les gendarmes ont été entendus. Après plusieurs recours, la justice a définitivement clos le dossier en 2022. Pas de crime, ni d'imprudence caractérisée des gendarmes. Cette conclusion, le collectif Tous Migrants ne veut pas s'y résoudre et persiste dans sa contre-enquête. Une manière de rendre son histoire à cette jeune femme morte dans leur montagne, elle et tous ceux qui tentent encore aujourd'hui la traverser. Michel a d'abord emmené Clémentine Métainier et Frédéric Chauffat au cimetière de Presles, à 7 km de Briançon. C'est lui qui entretient la tombe de Blessing.
Et bonjour, bonjour Michel. Comment ça va?
Ben ça va, vous êtes à l'heure, c'est bien. Je suis venu, j'en profite quand je viens là. Je viens quand même avec un peu de matériel toujours. Donc j'ai mon seau, mon sécateur, mes gants pour faire un peu d'entretien. Voilà, qu'elle reste belle.
Donc là, c'est le cimetière de Presles.
C'est ça. Là, on vient de traverser la partie historique. Et voilà la partie plus moderne, récente.
C'est plutôt vide, hein ?
Il n'y a pas beaucoup de tombes. Et en fait, Blessing est enterré dans un coin, à l'extrémité est du cimetière.
Tout au bout, à droite, on va y aller.
Au fond du cimetière. Lorsqu'on a découvert cet emplacement, au moment même de la cérémonie d'inhumation, dans ce coin, entre deux murs, ça a été un choc, alors que au moment de la cérémonie, l'église était pleine à craquer, c'était toute l'humanité de Blessing qui avait été restituée. Mais c'est un concours de circonstances qui nous rappelle que notre société a vite fait de marginaliser.
Comment on vous présente ?
Je m'appelle Michel, j'ai 72 ans, je vis à Briançon depuis 1978, donc ça fait longtemps. J'ai choisi d'habiter ici pour la bande de la montagne.
Voilà. On peut s'avancer encore plus proche ?
Mmh. Donc on a une tombe qui est très sobre, avec une plaque en bois qu'un des membres de l'association a gravé avec le prénom de Blessing. Et puis des fleurs de montagne et des rosiers qu'on a plantés un peu au fil du temps pour honorer sa mémoire, pour faire de cet endroit justement pas un lieu vide, pas un lieu anonyme, quelque chose de vivant, quelque chose de présent qui puisse encourager les gens à se poser la question, mais pourquoi pourquoi Blessing est là et pourquoi cette tombe, qu'est-ce qui s'est passé.
Quand on habite ici, comme vous, à un moment donné, on est confronté à la question de l'exil, à la question de l'accueil, à la question de la solidarité.
Ça fait partie de l'histoire de ce territoire, hein, avec des cols qui étaient franchis par des populations, depuis la nuit des temps, en quête d'un avenir, en quête d'une possibilité de vivre par rapport à des réalités que les gens fuyaient. Et depuis 10 ans, hein, depuis le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures en 2015, on a vu arriver quotidiennement des gens par la montagne. Et donc on s'est très très vite organisé pour permettre aux gens de survivre à cette traversée périlleuse, hein, que nos Alpes ne deviennent pas un cimetière comme la Méditerranée. Ce n'était pas seulement l'obstacle de la montagne, c'était surtout l'obstacle de la police et des contrôles et des refoulements systématiques. Les gens sont obligés d'éviter les forces de l'ordre parce que sinon elles vont être foulées. Donc elles passent par des cheminements escarpés avec le risque de se perdre, le risque de mourir de froid, le risque de chuter et aussi surtout en étant coursées par les forces de l'ordre, là aussi le risque d'accident. Et c'est ce qui s'est passé. C'est malheureusement ce qui s'est passé et la première victime de ces traques, de ces chasses à l'homme, c'est Blessing. C'est pour ça qu'on continue de... avec l'énergie, non pas du désespoir, de l'espoir plutôt, de lutter pour que les droits des personnes exilées soient respectés, et que les politiques migratoires changent pour qu'elles soient dignes de notre pays, quoi. Ça aussi, c'est ce liseron là qui est un peu... À chaque fois, ça pousse, ça repousse tout le temps.
Quand Blessing Mathieu meurt, c'est un choc pour Michel et pour d'autres habitants de la région, notamment engagés au sein de Tous Migrants. Ensemble, ils vont alors décider très vite de mener leur propre enquête. Ils retournent sur les lieux, ils font du porte-à-porte à la recherche de témoignages. Ils vont même consulter des spécialistes, médecins légistes, avocats, hydrologues. Ce travail de fourmi, ils le mènent depuis maintenant 8 ans.
Enfin, même la lavande, elle n'est pas aussi belle que si elle était en plein, vraiment en plein soleil, en plein froid, en plein vent.
Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait en général de Blessing Mathieu?
On sait qu'il y a de fortes chances qu'elle ait disparu le 9 mai 2018, dès la Vachette. Et c'est impossible que son corps se retrouve comme ça, dans l'état dans lequel il a été retrouvé ici.
Parce que la Vachette, c'est combien de kilomètres plus haut ?
11 kilomètres. Très vite, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La rivière, elle arrache tout, hein. Et en plus, le corps se bloque. On n'a jamais vu ici un corps faire 11 kilomètres, parce que ce n'est pas la première noyade. D'autant plus que son corps est peu abîmé. Elle aurait été broyée, elle aurait été démembrée. C'est impossible qu'un corps puisse faire tout ce chemin. Mais logiquement, c'est la justice qui devrait faire cette reconstitution. En fait, on a mobilisé toute notre énergie pour découvrir la vérité et obtenir la justice. Nous, on veut rendre public tout ce qu'on sait. Donc on veut aller au bout de ce qu'on peut produire comme données vérifiées béton ou comme questions. Comment une personne pleine de vie peut se retrouver coincée dans un barrage sous l'essai? Et c'est insupportable. Ma démarche militante, c'est de l'honorer comme une personne comme une autre. Hein. Je ne sais pas, c'est comme si c'était un membre de ma famille. On est juste témoin direct des conséquences d'une politique dramatique, criminelle. Notre seul courage, on va dire, c'est de ne pas fermer les yeux. C'est sous nos yeux. Ça fait partie de l'humanité, cette notion d'asile et d'exil. C'est au cœur de n'importe quelle trajectoire humaine. Les gens qui fuient, ça nous rappelle notre humanité dans sa fragilité, dans sa précarité. J'ai des photos à faire sur la berge, là où elle est tombée.
On vous suit du coup?
Ouais.
Ok.
Il y a un pont et on se gare à proximité du pont. Voilà.
Côté de la rivière. Bah, tout de suite alors.
Tout de suite.
On suit Michel qui nous emmène au village de la Vachette, situé 11 km en amont, là où le drame est arrivé. Il a rendez-vous avec Thomas Pascal, c'est un kayakiste professionnel qui a été sollicité par les citoyens de Tous Migrants quand il voulait mieux comprendre le trajet de Blessing Mathieu dans la Durance. La Durance, c'est cette rivière de montagne que Thomas Pascal connaît par cœur.
Bonjour. Salut Michel. Ça va?
Ouais.
Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce village?
La Vachette... C'est au pied du col du Mangenève, là, qu'on a en contre-haut, là, juste ici. Donc, c'est toujours été un lieu de passage par les gens qui passaient le col. Avant, hein, c'était une route déjà du temps des Romains. Quand on descend le col, c'est l'endroit où on arrive dans le fond de la vallée. Donc, on retrouve la rivière, on retrouve la vie dans la vallée avec plusieurs petits villages qui sont côte à côte. Les Albères, sa proximité de Briançon. Voilà la Vachette.
Et cette fameuse Durance, donc là on est sur un pont, je crois que vous avez un lien particulier avec elle.
Et ouais, quand on est kayakiste, c'est un peu. Les rivières, c'est un peu notre vie. Alors la Durance, c'est l'épine dorsale des Alpes du Sud, c'est elle qui récupère tous les autres affluents qui la remplissent jusqu'à Avignon en fait. Et puis la Durance, elle a des parties. Un petit peu calme ou tranquille, hein, comme ici dans la Vachette. Puis elle a des parties bien agitées plus bas avant Fontenil, avec des rapides qui sont encore un peu terribles, parce qu'il y a la combe de Malfos qui arrive, et où c'est des gros rapides.
Est-ce qu'on peut aller à l'endroit où Blessing est tombé, il y a 8 ans, maintenant?
Oui, on va y aller. Donc là, on part d'ici, on est sur le pont qui traverse la Durance en plein milieu du village. On va remonter quelques dizaines de mètres, comme l'ont fait Blessing et Hervé qui l'accompagnaient cette nuit-là, en pleine nuit, dans le noir. Et ils étaient poursuivis par plusieurs gendarmes mobiles. Ils sont passés là et on va faire ce cheminement.
Et au bout, la rivière.
Par rapport à la contre-enquête, là, je tombe sur un super problème. Parce qu'en fait, ce que je voulais vérifier, ben, c'est plus vérifiable. Puisque la rivière a changé. En fait, au moment où Blessing tombe dans la rivière, elle porte une grosse veste et un foulard multicolore à dominante orange. Elle porte sur son dos un sac noir dans lequel il y a toutes ses affaires. Ce sac et son manteau vont être trouvés dans des conditions, d'après les données de l'enquête, tout à fait étonnante, sous la petite passerelle, en amont de la chute de Blessing, la petite passerelle du torrent du Vallon.
Je ne sais pas si on peut traverser Michel en face, le torrent du Vallon, là, il y a une petite passerelle.
Ah ouais. Alain ?
On traverse la Vachette avec Michel et il tient à nous présenter Alain, qui habite le village depuis longtemps. Sa maison est juste au bord de la Durance, d'ailleurs.
J'ai très demandé.
Comment
va?
Là, on vous
dérange. Non, au contraire, c'est toi. C'est toi. On voulait te parler en espérant que tu sois
là. Qu'est-ce qu'il y a à me parler?
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
L'idée, ça serait...
C'est pour quelle...
C'est une émission pour France Inter.
Ah oui, d'accord.
Et pour raconter ce qui se fait aujourd'hui, comment des citoyens, habitants, ne lâchent pas le morceau sur l'affaire Blessing et en essayant de voir où est-ce qu'on en est.
Blessing, c'est un symbole, en fait, on va dire. Hein. Dernièrement, j'ai vu encore un gars qui est arrivé, là, un Palestinien, quoi. J'étais en train de ramasser des graviers dans la rivière et je voyais qu'il m'observait et tout. Et je lui demandais ce qu'il faisait. Et bon, il parlait pas français ni anglais. Ça m'a choqué, quoi. Il avait des chiffons autour des pieds qui entouraient ses pieds, quoi. Il a plus de chaussures, quoi. Donc c'est pour vous dire un peu le décalage qu'il y a par rapport à notre société, quoi. Je peux dire qu'on est forcément lié à ces événements, quoi, directement, surtout à la Vachette. Hein. Je crois que tous les chemins passent par la Vachette, quoi, que ce soit de Mangenère ou le col de l'Échelle. Et malheureusement, Blessing en a fait des frais. Quoi.
Et vous aimeriez quand même savoir la vérité, savoir ce qui s'est passé?
Je pense que tout le monde aimerait connaître la vérité. Quoi, hein. S'il y a une vérité qui doit se mettre en place, ça va libérer beaucoup de choses, quoi, là, au niveau de la conscience des gens. Si on arrive à savoir ce qui s'est passé réellement, quoi.
Merci. Bonjour.
Ouais, bonjour.
On arrive à Briançon. Donc c'est après Briançon ou c'est...
Oui, c'est après encore. Ouais.
Bon.
Donc, pour vous garer, il y a une grande place devant l'église, vous vous garez là.
Ok. Et bien, tout de suite alors.
Ouais, tout à l'heure.
Savoir ce qu'il s'est passé, c'est l'obsession d'Agnès Antoine. Avec Michel, Elle n'a finalement jamais cessé de chercher la vérité. Elle connaît d'ailleurs le dossier sur le bout des doigts et on arrive chez elle pour en parler.
Toc, toc, toc.
Salut.
Bonjour Agnès. C'est le chantier, c'est des préparatifs?
Ouais. On fait la traversée du Massif Central en vélo, enfin en tandem.
Donc on vous attrape in extremis avant votre départ.
Exactement. Petite cafetière, elle est là. Alors on y va. Alors c'est des tasses.
Astérix.
Tous les petits enfants.
Ça fait depuis 1980, donc 45 ans que j'habite dans le coin. Je suis mariée, j'ai 5 enfants. Je suis très, très impliquée dans la défense du droit des étrangers depuis très longtemps. D'abord, j'ai travaillé en tant qu'intervenant social pour l'accès aux droits des étrangers. Quand, effectivement, il y a commencé à avoir beaucoup de monde qui arrive à la frontière, je crois que j'étais une des seules à maîtriser un peu le droit des étrangers.
Et quel portrait vous pourriez faire de Blessing pour cette femme que vous n'avez connue que décédée ?
On ne sait pas grand-chose d'elle. On en sait ce que ses sœurs nous ont dit, les photos qu'elles nous ont données, dont une très belle photo où elle est habillée en mauve. Quelques mots que nous ont dit ses sœurs, qu'elle voulait être médecin ou quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, qu'elle voulait aider les autres. Mais en fait, on ne sait pas grand-chose d'autre d'elle. Et ça, c'est un petit peu... Une difficulté pour moi, c'est qu'en fait, on a beaucoup médiatisé cette affaire. Son nom est très connu. Vous tapez Blessing sur Google, voilà, on tombe sur son histoire. Et paradoxalement, on a très très peu d'éléments sur sa vie. Sur, par exemple, on ne sait pas exactement son âge. On ne sait pas grand-chose finalement, si ce n'est le fait qu'elle est morte de manière très violente ici et qu'on a retrouvé Blessing nue, avec juste sa petite culotte. Une chaîne autour du cou. On sait, avec les témoignages, que Blessing avait un jean serré, enfin voilà, une veste, des habits. Comment ces habits ont pu s'enlever comme ça et que la petite culotte ne s'enlève pas? Première question. Enfin voilà, c'est pas possible. Il y avait sa veste, il y avait son sac, qu'on a retrouvé aussi un petit peu à l'écart du lieu de l'accident. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui, de toute manière, devraient interroger même le procureur qui a décidé de classer l'enquête. Et la suite nous donne raison, puisqu'en fait, on retrouve Hervé qui témoigne de ce qui s'est passé. Hervé qui n'a jamais été entendu par les gendarmes, qui témoigne, qui raconte comment l'intervention des gendarmes a conduit la noyade de Blessing. Hervé, c'est la personne qui était avec Blessing ce soir-là, et qui raconte tout.
Il y a un policier qui a suivi Blessing. Moi, j'étais caché dans le jardin, j'étais couché.
Hervé, un Camerounais en exil, qui tentait de rejoindre la France aux côtés de Blessing Mathieu ce jour-là. Il est le seul témoin de sa chute et n'a jamais été entendu par la justice. Tous Migrants et l'organisation Border Forensics ont récolté son témoignage en octobre 2021, enregistré par Frédéric Chauffat.
Blessing continue à courir dans le jardin. Le monsieur dit « arrête-toi, arrête-toi ». Au bout du jardin, elle s'est arrêtée. C'est là que j'ai compris que les bruits que je suivais, c'était la rivière. C'est là qu'elle dit à la police que si tu me suis, je vais me jeter. La police n'a pas réagi. Il a commencé à la brutaliser. Il tirait Blessing. Blessing a commencé à crier « Lift me, lift me, lift me ». Après, Blessing est tombé dans l'eau. Elle a commencé à crier. Au fur et à mesure qu'elle criait, sa voix s'éloignait. 2 minutes après, le policier est parti retrouver ses collègues.
Donc ils étaient ensemble, ils sont partis ensemble donc le soir du refuge en Italie et Blessing s'est noyé vraisemblablement vers 2-3 heures du matin, on ne sait pas exactement. Mais il n'a pas été entendu. Il y a une chape de plomb sur cette affaire. Moi je vous défie, vous journalistes, de trouver une seule affaire en France où il y a une mort d'une personne où on refuse d'entendre un témoin qui se manifeste même 10 ans après. Ça n'existe pas. Et là on refuse.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a une chape de plomb sur cette affaire. Il ne faudrait pas que la vie de Blessing se résume à sa noyade dans la Durance. La vie de Blessing, ça a sans doute été autre chose. Ce serait dommage que dans la postérité, il ne reste que ça, quoi. Blessing, c'est la noyade dans la Durance. Donc, non seulement une noyade dans la Durance, mais en plus une tombe au cimetière, là, complètement à l'écart des autres. Voilà. C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible, ça.
Et vous, depuis ce moment-là, vous n'avez fait que vous engager, particulièrement avec Michel. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, quand même, pour
Bien
vous.
Sûr. Ça ne nous touche pas seulement, c'est plus que ça, quoi. Ça nous modifie. Et ça, moi, je pensais pas. Je pensais, oui, t'as un combat, c'est dur, il faut que tu y ailles et tout. Bon, ok, tu dors pas bien, tu t'écris sans arrêt, enfin voilà, t'es sans arrêt en action. Mais là, ça te modifie dans ce que tu as de plus profond, quoi. Et c'est ça qui est compliqué. Et que chaque printemps, quand il y a des crues, franchement, hein, moi, depuis la mort de Blessing, chaque printemps, quand il y a des crues, que la durance, elle est là, qu'elle est énorme et tout, je... Ah, c'est horrible, enfin, tu peux plus regarder la durance comme avant, quoi. Tu vis plus les choses de la même... Alors que, ben, Blessing, c'était pas de ma famille, c'était quelqu'un que je connaissais pas avant ce drame, mais ouais, c'est...
Donc là, si je vais tout droit, on part à Turin, c'est
ouais.
Ça? Ok. Ah voilà, on voit la frontière.
Et là, à droite, on a deux mégabassines, nous aussi, pour
oui.
arroser le golfe et faire des canons à neige.
On se dirige maintenant vers le col de Montgenèvre, à 1860 mètres d'altitude. C'est un axe majeur pour les exilés qui tentent de rejoindre la France par l'Italie. Brune Béal, la juriste de tous migrants, s'y rend régulièrement, presque tous les jours, pour documenter le traitement des personnes migrantes.
Donc là, on se rapproche au maximum de la frontière.
Ouais.
C'est possible de se garer.
On va se garer à la station essence en face de la police. Et en vérité, la frontière, elle n'est pas à l'endroit où se trouve le poste de police. Elle est un peu plus bas.
Voilà.
Ah, et ici, on se fait souvent contrôler son identité.
Parce que ici, les policiers font ça très fréquemment. Hier, je me suis fait me contrôler mon identité ici. C'est le seul col qui n'est jamais fermé. C'est un des cols en France le plus traversé aussi. Et par rapport aux autres cols avoisinants, qui eux sont fermés en hiver parce que les conditions sont difficiles, lui, il faut stratégiquement qu'il soit impérativement laissé ouvert en fait. Et c'est tout le paradoxe avec le fait qu'on bloque aux personnes exilées, mais que pour des raisons commerciales, touristiques, il ne faut absolument pas le fermer l'hiver.
On emprunte un petit chemin qui va nous faire surplomber la police aux frontières. Mais du coup, la frontière, elle n'est pas là, au niveau de ce bâtiment-là.
La frontière, elle est un peu plus bas, sur la route. Et on surplombe surtout, là, les constructions modulaires accolées au bâtiment de la police aux frontières. Et c'est dedans que sont enfermées les personnes exilées, qui sont interpellées le temps que leur refoulement soit appliqué. Et ça peut durer 2, 3, 4, 5, 10, 12 heures, 24 heures, quoi. Et dans des conditions d'enfermement très souvent indignes. Et voilà, si on s'approche un petit peu, il y a deux rangées de grillages, il y a des barreaux aux fenêtres, des caméras tournées vers l'extérieur et l'intérieur. Et nous, on n'arrête pas de répéter, de réaffirmer qu'il s'agit d'un lieu de privation de liberté, qui doit donc répondre à certains critères, mais l'administration dit que c'est un lieu de mise à l'abri. Et là, ça saute aux yeux que c'est pas un lieu de mise à l'abri, les personnes ne sont pas du tout libres d'aller et venir.
Donc là, très concrètement, on est juste derrière hein, la police aux frontières. On a cette montagne-là, très imposante autour de nous. Ici, les exilés passent par où ?
On a l'impression qu'il y a trois routes possibles. Il y en a une, la plus accessible, qui est un peu en dessous. Et sinon, il y a deux autres chemins. Un qui part là sur le versant à notre gauche et l'autre qui part sur le versant à notre droite. Et donc, ces deux chemins-là finissent par se rejoindre plus bas ensuite, un peu avant Briançon, et c'est sur cette dernière portion que Blessing est décédé, mais c'est aussi le cas de plusieurs autres personnes qui sont décédées à cet endroit. Donc on pourrait penser que le plus dangereux, c'est quand t'es haut dans la montagne, mais en vérité, le danger, il est constant jusqu'à la fin, notamment quand il y a des courses-poursuites avec les forces de l'ordre, quoi. Là, faut bien s'imaginer que les personnes exilées qui tentent de passer par ici, parmi les mille et une étapes qu'elles ont dû franchir avant d'arriver ici, notamment d'autres frontières, ici, elles doivent encore s'attaquer à une étape particulièrement difficile puisque c'est des pistes de ski, en fait, qu'elles doivent traverser. Mais c'est très, très raide. On est à 1800 mètres d'altitude. On peut tomber à des ressentis jusqu'à moins 20. Donc, il y a évidemment des risques d'hypothermie, de gelure, de chute. Le terrain, quand il est enneigé ou quand il est glacé ou quand il est mouillé, particulièrement dangereux. C'est des chemins très escarpés. En fait, c'est les pousser à la mort. C'est effrayant pour des personnes qui ne connaissent pas cet endroit. Et c'est leur première vision de la France, c'est l'hostilité en fait.
On continue d'avancer ?
Ouais, très bien.
Ah, regardez, on vient nous chercher, non? Bonjour.
Bonjour. Oui, on a juste fait un petit contrôle quand vous filmez les bâtiments.
On n'a aucune caméra.
Vous n'avez aucune caméra?
C'est que
d'accord,
du son.
D'accord. Du coup, vous êtes journaliste? Vous êtes...
On est documentariste indépendant.
D'accord. Vous avez une carte de presse, s'il vous plaît?
Moi, j'ai une carte.
Je veux bien, s'il vous plaît.
Le documentaire, c'est ce que j'ai envie de faire. Le
documentaire est objectif. Sollicité pour expliquer le contexte, bon, parce qu'ils ne savaient pas trop où était la frontière, etc. Donc, ils ont sollicité dans ce cadre-là.
Béal Brunotier, vous êtes juriste à tous migrants, si je ne sais pas
ce qui est
très bien.
Oui,
ok, ça marche.
Au revoir, monsieur. Bon, ça montre quand même le climat un peu pesant, quoi, de se faire contrôler son identité tout le temps. On a plein d'éléments qui montrent aussi qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont fichées par les autorités. Enfin, quand même, Pour moi, Blessing, ça incarne ça. Ça incarne en fait une histoire qui nous a tous et toutes dépassés. Et elle incarne aussi notre volonté de ne pas se taire. Et que ça fait des années qu'elle est décédée, mais elle continue d'incarner cette lutte-là. Donc, on a fait un travail extraordinaire et de ça, je pense qu'on peut être fiers. Nous, on est un peu obligés de naviguer aussi entre notre volonté de réhumaniser toutes les personnes qui sont victimes de ce système frontière. De les réhumaniser, c'est leur redonner un nom, une histoire, des contacts avec la famille, enfin ce qu'on ferait en fait pour n'importe quel décès d'une personne française. Et en même temps, d'illustrer à quel point c'est un problème systémique, à quel point elle est morte parce qu'on a mis en œuvre des politiques frontalières racistes, discriminatoires, violentes, qui préfèrent faire primer les objectifs sécuritaires sur les vies d'individus comme celle de Blessing, qui était une très très jeune fille. On n'aurait jamais accepté un niveau d'enquête aussi bas pour la mort d'une personne blanche. Jamais. C'est un corps noir qui est mort. Donc c'est pas pareil que quand c'est un corps blanc, quoi.
Depuis 2024, la voie judiciaire est achevée, les recours épuisés. Alors qu'espèrent ces citoyens enquêteurs? Où trouvent-ils la force de continuer à chercher des preuves et s'accrocher pour faire toute la lumière sur cette affaire? À la fin de notre entretien, Agnès nous répond.
Et vous, aujourd'hui, quel est votre espoir? Est-ce qu'il y a espoir, concrètement, alors après, preuve à l'appui ou pas, mais c'est de réouvrir une enquête judiciaire, de repasser par la justice, aujourd'hui?
En fait, qu'aujourd'hui on juge ou pas les gendarmes qui étaient là ce soir-là, ça n'amènera pas grand-chose à Blessing, ni à nous. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'on reconnaisse, oui, que cette nuit-là, il s'est passé quelque chose, qu'Hervé dit la vérité, et que oui, il y a eu un dérapage cette nuit-là. Et que oui, Blessing est morte à cause de ça.
Et vous pensez que vous avez fait un travail, vous, qui aujourd'hui permet d'établir la vérité?
Oui, absolument. Absolument. Et enfin, moi, je demande que ça. Qu'on nous dise, ouais, c'est vrai ce que vous racontez. Mais il faut du temps. On a des affaires qui restent non élucidées pendant 30 ans. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se dit, bon, bah, avant de mourir, je vais dire ce qui s'est passé. J'ai un ami philosophe, dans un article qu'il a fait, donc après qu'en appel, ils aient refusé de rouvrir l'enquête, et qui dit, ben voilà, on enlève la vie à Blessing une deuxième fois. C'est ça, en fait. Le refus de rouvrir l'enquête, c'est en fait, on la noie une deuxième fois. Et il n'y a rien pour sauver cette humanité. La vérité.
Qui a tué Blessing Mathieu? Une contre-enquête citoyenne, un reportage signé Clémentine Métainier et Frédéric Chauffat.
France Inter, Interception.
Aller à un concert, écouter de la musique quand on est sourd, c'est quand même pas banal et c'est même peut-être la dernière chose à laquelle on pense quand on parle d'accès à la culture. Eh ben, c'est que vous n'avez pas encore rencontré Laetitia Tual, vous allez le faire tout de suite. Elle fait du chansigne, Laetitia, c'est son nom de scène. Elle entend parfaitement, mais elle maîtrise aussi parfaitement la langue des signes. Et elle propose aux sourds et malentendants de vrais spectacles en interprétant en langue des signes des chansons de tout style. C'est une vraie pionnière, son spectacle s'appelle Letty chansigne avec le public. Forcément c'est très visuel, mais vous arriverez à suivre, guidé par Cécile Bidot et Gilles Gallinaro, qui ont aussi donné de leur personne. On y va, pouce en l'air.
Peut-être juste vite fait, je t'envoie juste la musique, tu te fais un tour au plateau, tu me dis si t'as assez de son.
Ok.
On recommence du début si tu veux.
Je te mets direct au niveau de la voix. Nanana. Elle est volontairement un peu en dessous.
Et il ne faut pas qu'elle passe trop non plus, parce que c'est un peu pour handicaper les... Voilà.
Alors, on vient de rentrer au Django. C'est une petite salle de concert dans un centre culturel du quartier du Neuhof. À quelques heures de son spectacle, Letty vient de commencer à faire les balances, réglage des tout derniers détails, le son, l'éclairage. On la voit là courir entre la scène et la console. Letty est en pleine discussion avec l'ingénieur du son et la régie lumière.
Voilà. J'ai besoin de me sentir bien entourée par le son. Et puis, il y a aussi besoin de voir où est-ce que je peux aller en termes de lumière. Voilà, au maximum, à droite, à gauche, devant, derrière. Donc, besoin de prendre les repères.
La lumière, c'est très important, en fait.
La lumière, c'est mon micro. Je vais avoir besoin d'être suffisamment bien éclairée sans que ça soit non plus une lumière du type conférence parce qu'on est en concert. Et d'avoir un couloir assez grand puisque je ne suis pas fixe.
Il faut qu'on voit bien votre visage qui est très expressif, oui. Et vos mains qui sont aussi la manière de vous exprimer.
Le cadre de la langue des signes, il est du nombril jusqu'au haut de la tête.
Donc au début, je ferai ce truc-là. Et donc là, si on peut avoir un peu de lumière sale, et à la fin, tout le monde est bilingue, de toute façon, à la fin de mes concerts, aucun problème.
Dire qu'il faut que je boive de l'eau, j'en bois pas.
Là, on est dans la loge de Letty, à l'arrière de la scène du Django.
Hop, je suis très bordélique.
C'est la petite bière d'avant-concert.
Ah ouais.
À la vôtre.
Santé. Alors, moi, je m'appelle Letty et je suis chansigneuse. Le chansigne, c'est la langue des signes et la musique qui jouent ensemble. Qu'on entende ou qu'on n'entende pas la musique, elle nous touche. Dans le chansigne, c'est ça qu'on va partager.
Donc comment vous créez, parce que c'est une création, hein, à partir même d'une chanson existante, comment vous créez un chansigne? C'est pas juste la langue des signes plaquée sur les paroles.
Moi, j'y vois quatre étapes. D'abord, ça va être l'univers de l'artiste. Quand est-ce qu'il a écrit cette chanson? Pourquoi? Donc ça, c'est un travail de recherche. Bien sûr aussi, toutes les ambiances, l'ambiance musicale. C'est quoi le style? Comment est-ce que, dans le corps, comment est-ce que ça va passer? Donc déjà, à partir de là, ça donne des lignes, des courbes, des carrés, des ronds, ça dépend. Après, il va y avoir du texte à la langue des signes. Là, c'est le travail de traduction. En général, je commence par le refrain, parce que dans le refrain, j'y vois l'huile essentielle de l'œuvre. Et ça va me permettre de trouver aussi ce que j'appelle les signes phares, pour que ça me serve un peu comme des rimes, comme nous on a les rimes auditives, pour aller chercher des sortes de rimes visuelles, et que ça soit aussi fluide dans l'œil du spectateur sourd.
On peut s'arrêter là-dessus. Comment on fait pour faire des rimes visuelles? Comment on traduit une rime en signe?
La rime, en langue des signes, c'est des configurations de main, donc la forme de la main. Donc, si je prends mon pouce, mon index pour faire un L, je vais pouvoir avoir le verbe marcher, qui donc utilise cette même forme de main, donc avec là, les deux mains cette fois.
Là, vous bougez vos deux mains avec pouce et index placés en forme de L. Ouais, ça, c'est marcher.
Mmh. Libre. Donc là, c'est les deux mains en forme de L aussi qui vont être plus devant moi. Et donc, ça, c'est une des possibilités de rime visuelle, par exemple.
Est-ce qu'on peut avoir une petite leçon de langue des signes, de chansigne? Je ne sais pas si on prend une phrase d'une des chansons qu'on va entendre ce soir, peut-être une des plus connues, je pense à Édith Piaf, par exemple.
Édith Piaf, l'accordéoniste... Tout son être est tendu, son souffle est suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. Donc tout son être est tendu. Là, ça va être donc, au niveau du corps, donc on va aller plutôt les mains sur le torse. Il va absorber aussi tout ce qui est autour, comme ça, et ça va se coincer. Donc les mains, elles sont en griffe un peu, voilà. Son souffle est suspendu. Alors là, c'est la respiration, donc l'index et le majeur du nez.
Donc là, vous avez vos deux doigts sous vos narines.
Ouais. C'est une vraie tordue de la musique. Donc là, c'est les deux doigts en mode chef d'orchestre, les deux index. Passion, donc là, c'est un bisou sur la main, avec le poing serré. Une passion folle.
Pas évident à expliquer à l'audio.
Son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique.
Comment on se retrouve à être chansigneuse quand soi-même on n'est pas sourde ?
C'est vraiment en étant à la rencontre des sourds, et eux m'aident à rentrer en communication avec eux, et donc je me fais des potes, et donc on va faire la fête. Et je me dis, bah quand même, vous m'avez appris la langue des signes, mes oreilles elles fonctionnent, bah, peut-être on peut faire en sorte d'essayer de traduire des chansons. Et donc ça a commencé comme ça, dans des assos de sourds, pour commencer à faire quelques chansons. Et là, en fait, mon cœur il a explosé, je savais que je voulais faire ça, je savais pas pourquoi, mais je voulais faire ça.
Donc là, le spectacle de ce soir, vous êtes seul sur scène, enfin quasiment seul sur scène. En tout cas, vous ne doublez pas un groupe en live. Mais sinon, l'activité du chansigne, c'est ça. C'est effectivement être sur scène avec un groupe qui joue et chansigner les chansons en simultané. Vous avez chansigné des stars quand même. Est-ce qu'on peut les citer?
Donc Kerry James, Oxmo, Demi Portion.
Et je crois qu'il y a même Coldplay qui vous avait sollicité pour un de ses concerts.
Ben ouais. Mais voilà, c'était 2 semaines avant le concert. Et donc là, ben, c'est minimum 3 mois. Et en se disant qu'on va écouter tous les jours, qu'on va bosser une chanson par jour et qu'il va falloir mémoriser vite, vite, vite. Voilà, là, c'était pas possible.
Mais est-ce que ça veut dire quand même que ça se démocratise? En tout cas, que ça s'installe un peu dans le paysage musical?
Ça, oui. On avance. On n'y est pas encore, puisqu'on parle que d'accessibilité et qu'on n'est pas encore à se demander quand est-ce qu'on fait des formations de qu'est-ce que la musique pour les sourds. Alors je sais qu'aujourd'hui à la Philharmonie, ils en font beaucoup plus. Les sourds peuvent approcher les instruments. Mais c'est très très récent.
Donc le chansigne, ça permet aux personnes sourdes de comprendre les textes qui sont interprétés sur scène, mais la musique provoque aussi des vibrations. Et à l'espace Django, on met à disposition des gilets vibrants qui amplifient cette vibration et permettent aux personnes sourdes de ressentir les vibrations, le rythme de la musique, pouvoir bouger en rythme, ressentir et danser, pourquoi pas. Donc on va tester. Je l'enfile. Donc ça ressemble un petit peu, ça s'enfile par devant, hein, un peu comme un porte-bébé, si vous avez l'image. Après, ça se clipse derrière. Tu veux bien le fermer? Nickel, merci. Donc en fait, le gilet vibrant est connecté à distance à la console et reçoit le son. Et ça permet, voilà, ça commence de faire vibrer le gilet. Donc en fait, ça vibre vraiment au niveau du plexus solaire. Ah ouais. Donc plus c'est fort, plus ça vibre. Et donc là, je ressens des vibrations qui s'étalent au niveau du haut de mon corps jusqu'aux épaules. Et ça se transmet presque jusqu'aux bras et je dirais presque jusqu'au sommet du crâne, quoi. Ouais, c'est une drôle de sensation et ça module en fait en fonction de la puissance du son. Et c'est surtout les basses et les percussions qu'on ressent.
On va quand même sonner la cloche pour les entendants, et puis pour les autres, on va les accompagner en salle.
Donc là, ça y est, les gens sont rentrés dans la salle, le concert va commencer, et on voit des petits groupes de personnes sourdes qui discutent en langue des signes, ça rigole pas mal, ça commence déjà à danser. Et là, le spectacle de Letty va commencer. Tout en noir, elle a une casquette sur la tête. À chaque parole, elle fait un geste. Là, avec ses mains, elle vient de former un loup. Ses mains qui s'agitent à droite, à gauche. Et puis ensuite, tout son corps qui ondule. Hein. Letty, elle occupe vraiment la scène, elle se déplace. C'est de la langue des signes, hein. Elle chante avec les mains. Mais c'est aussi de la danse et presque même du mime par moment. Donc là, le premier morceau vient de s'achever. On voit les gens qui dansent. Et là, pour applaudir, la plupart des personnes ont agité leurs mains dans le ciel. Voilà, quelques autres personnes qui applaudissent.
Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va bien ?
Oui.
Ça va ? Ouais.
Donc là, Letty, elle est cool, sur la scène et elle parle en langue des signes avec le public. Et il y a une traductrice, une interprète qui traduit cette langue des signes pour que les personnes entendantes puissent comprendre ce qui est dit sur la scène.
Alors, ce soir, on est ensemble pour le spectacle Letty chansigne avec le public. Donc, on va chansigner ensemble. Donc, c'est un chansigne de création. C'est un peu une danse, un peu en mode camping, un peu genre la Macarena, vous voyez ? Un truc du genre, voilà.
Ensemble ! Ok.
Donc là, Letty a expliqué les signes qu'il fallait faire pour suivre cette chanson. Ça a l'air assez simple. Donc on va essayer. Gilles, t'es prêt ? Alors, les pouces en l'air. Et on fait tourner ses poings. Et on fait la fête avec les index en l'air d'un côté et de l'autre. Et elle a fait un geste comme ça, on recommence. Ok, je pense qu'on l'a. On a rejoint quelques spectateurs du concert et Séverine, qui est à mes côtés, est en train de traduire mes propos. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qui vous êtes, quel âge vous avez, pourquoi vous êtes là ?
Bonsoir, moi je m'appelle Alexandra, moi je viens de Mulhouse et je suis venue exprès parce que le spectacle était chansigné ce soir avec les gilets vibrants qui amplifiaient. Ça c'était génial et qu'on puisse reprendre en plus. Les chansignes, les refrains, c'était génial, c'était hyper vivant, c'était super.
Donc là, c'est la première fois, je crois qu'elle nous explique, c'est ça ?
C'est la première fois, oui, effectivement. Alors, je m'appelle Gérard, j'ai 65 ans, et en fait, je viens régulièrement à la salle Django, parce qu'il y a régulièrement des concerts accessibles en chansignes. Moi, j'adore venir ici, voir la langue des signes et pouvoir participer aux concerts comme les spectateurs entendants. C'est une ouverture à la culture qui, pour moi, est hyper importante, justement, d'être à égalité avec les spectateurs entendants. Pour moi, la musique, comme je suis sourde naissance, c'est compliqué pour moi parce qu'en fait, je ne la connais pas. Je ne connais pas les styles. Donc moi, ce qui me touche, c'est ce que je vois, en fait. C'est le visuel qui, du coup, en plus avec le chansigne, me donne voilà, le spectacle en entier. En fait, on est là pour partager un moment de plaisir, c'est tout. On a un monde qui est compliqué, on souffre, on a besoin aussi de se vider la tête, on a besoin de plaisir. Et là, c'est un moment qu'on peut partager.
Bonjour. Est-ce que je peux parler ? Vous lisez sur les lèvres ?
J'entends quand même encore, donc oui, pas de problème.
Très bien.
Alors, moi, je m'appelle Zaina, j'ai 38 ans demain.
Bon anniversaire.
Merci. Alors, moi, j'ai grandi entendante. Et je suis devenue à moitié sourde à peu près à l'âge de 25-27 ans. Et j'ai décidé d'apprendre la langue des signes il y a quelques années, 3-4 ans à peu près. C'est très visuel en fait, on est vraiment complètement happé. Il y a une concentration qui s'installe avec une intensité d'écoute, donc d'écoute visuelle qui n'est pas la même que l'écoute auditive. Et je trouve ça beau.
Et on vous voyait refaire les gestes en langue des signes
Oui.
Mais... comme quand on est dans un concert et qu'on chante le refrain.
C'est exactement ça, un grand karaoké. Et ce genre d'événement, outre le fait que ça m'apporte un plaisir particulier et que ça m'apporte une expérience unique, en plus de ça, ça me permet de partager des moments privilégiés avec mes amis qui sont sourds. Parce qu'en fait, quand il y a les concerts normaux, ils ne vont pas forcément tous avoir envie d'aller au concert. Certains le font, hein. Il y a des sourds qui adorent aller à des concerts d'entendants, on va dire ça comme ça. Et il y en a, c'est pas trop leur truc. Et là, ça nous permet de nous réunir, en fait, et d'avoir accès à notre propre culture. C'est une culture qui est riche. Et on a tendance souvent à penser comment on va rendre accessible la culture entendante aux sourds, mais on pense rarement à comment est-ce qu'on rend accessible la culture sourde aux sourds et aux entendants. Et ce genre d'initiative, ça permet ça. Mais c'est vrai qu'il y a un manque de visibilité. La langue des signes, elle n'a pas encore récupéré la place qui lui est due. Et malheureusement, la langue des signes a été interdite pendant plus d'un siècle. Et là, ça fait depuis les années 70-80 à peu près qu'il y a le réveil sourd qui a eu lieu. Et donc, ça revient sur le devant de la scène. Et les sourds se sont réappropriés cette langue qui est pour eux naturelle et qui leur permet de bâtir une réelle identité. Donc oui, il y a du militantisme derrière, forcément. Et là, maintenant, on arrive à un point où on a envie aussi de partager ça avec le monde. Et ce genre d'initiative, ça permet ça.
Bah, merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Passez une bonne soirée.
Bonne soirée.
Celle qui chante avec les mains, un reportage de Cécile Bidot et Gilles Gallinaro pour Interception. Et sachez que vous pourrez retrouver ce reportage en vidéo et en langue des signes sur la page de l'émission. Xavier Yvon a assuré cette semaine la production d'Interception. La réalisation est signée Maria Pasquet et Lucie Lemarchand. Martine Messonnier est chargée de programme et c'est Maxime Goudard et Rémi Sistiaga qui assuraient le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interception, au bout du monde et au coin de la rue.